Je pensais que le bonheur se trouvait dans le plaisir. Je vivais un peu au jour le jour. Et puis là où il y a eu un switch, c'est quand j'ai décidé que j'avais envie de trouver mon bonheur différemment, notamment dans l'accomplissement de soi. Aujourd'hui, il y a un fléau dans notre société, c'est qu'on est trop dans la passivité. On consomme du contenu, on n'est pas assez actif. Et ça, c'est une des choses les plus importantes pour moi, c'est de retrouver du contrôle et surtout de retrouver une force d'action et d'expérimentation. Je pense qu'on apprend à se connaître quand on essaye des choses, quand on se permet d'explorer de nouveaux domaines. Eh bien, c'est souvent là où on apprend le plus sur soi. Je pense que c'est ça qui a changé. C'est surtout une perspective qui a été différente et puis surtout une envie de découvrir de nouvelles choses et de montrer un peu de quoi est-ce que j'étais capable.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Dali.
Salut Alec.
Comment tu vas ?
Eh bien écoute, ça va très bien. Merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir, d'autant plus que j'ai appris que tu étais un auditeur du podcast et tu me vois super content parce que tu viens de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, chose que tu avais oubliée malgré le fait que tu nous écoutes régulièrement comme tu l'évoquais. Et du coup, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, même peut-être plus d'une année pour certains ou certaines, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à mettre un avis sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée, si c'est Spotify ou autre, et à nous soutenir avec cette petite action qui prend que quelques secondes, mais qui remercie et reconnaît notre travail au quotidien, à moi-même et surtout à toute l'équipe qui fait que le déclic est aujourd'hui possible. Donc, je profite de cette fenêtre d'opportunité que tu m'as indirectement offert, Dali, pour faire cet appel à l'action que j'oublie à chaque fois de faire, mais qui fait une énorme différence. Dali, rapidement, je vais te présenter parce qu'aujourd'hui, on va faire un épisode vraiment sympa, une masterclass encore une fois. Donc, Dali, tu es un créateur de contenu rassemblant près de 400 000 abonnés juste sur YouTube et près d'un million sur TikTok. Tu es passionné de développement personnel, une révélation qui a marqué un tournant dans ta vie. Tu es obsédé par l'auto-amélioration, passionné aussi par l'exploration des limites humaines et l'inspiration des autres à atteindre leur plein potentiel. Tu es connu aussi pour tes nombreux défis dans divers domaines, trouvant ton adrénaline. Tu as 21 ans et pourtant, tu as déjà accompli énormément de choses. Tu, justement, surfes sur cette tendance du building public et aussi de l'expérimentation de différentes choses sur toi-même. Tu as commencé la création de contenu il y a maintenant 3 ans, à l'âge de 18 ans. Il y a énormément de choses qu'on va pouvoir partager dans cet épisode. Donc, bravo pour ton parcours. Et j'ai envie de revenir tout de suite sur tes débuts avec cette première question. Tu as démarré dans la création de contenu donc à 18 ans, pendant le confinement, notamment suite à un intérêt tout particulier pour le développement personnel. Qu'est-ce qui t'a poussé à partager cette passion et surtout à passer à l'action ?
Ouais, alors c'est une très bonne question, Alec. Merci beaucoup pour cette introduction digne des plus grands. Il y a pas mal de choses qui m'ont poussé à commencer à créer. Un des plus grands déclics pour moi, ça a été le confinement. Il faut savoir que je suis quelqu'un de nature assez extraverti, de base. Et donc là, le confinement, c'est venu un peu mettre en pause tout ça pour tout le monde. Et donc, j'ai dû trouver en fait de nouvelles stimulations, quoi, tu vois. Donc, rapidement, j'ai commencé à m'intéresser comment est-ce que je pouvais faire pour gagner de l'argent. C'était ma première motivation et c'est comme ça un petit peu que je suis rentré dans cette grosse marmite du dev perso, on va dire. Et étant donné que je consommais du contenu, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je crois qu'il faut que j'applique ce que j'entends, il faut que je passe à l'action, il faut que je me challenge. Et poster des vidéos, c'était un des trucs, une de mes plus grandes peurs. Donc, je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose d'intéressant à aller chercher là-bas. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis engagé dans le processus. J'ai acheté mon premier micro, mes premières lumières, un petit trépied. J'ai mis 200 euros, 300 euros, un truc comme ça. Et ça y est, c'était parti, quoi. Je m'étais engagé. Il fallait que je le fasse.
Justement, on va reparler de cette notion d'engagement qui est capitale. Tu parles aussi, dans certaines de tes prises de parole, vidéos ou autres, d'un avant-après Dali avec le développement personnel. Qu'est-ce qui a concrètement changé pour toi ? Comment est-ce que tu expliques ce avant-après ? Et finalement aussi, qui était le jeune Dali de avant ce développement personnel, avant 18 ans, avant de découvrir ce monde ?
Je pense qu'il y a un changement de paradigme où on va dire qu'avant, je pensais que le bonheur se trouvait dans le plaisir. Donc, j'avais une vision un petit peu, comment dirais-je, épicuriste, tu vois. Vraiment, je vivais un peu au jour le jour et je recherchais le plaisir un peu partout. Et puis, là où il y a eu un switch, c'est quand j'ai décidé que, en fait, j'avais envie de trouver mon bonheur différemment, notamment dans l'accomplissement de soi, tu vois. Donc une vision un peu plus stoïcienne, si on veut reprendre l'analogie de la philosophie. Donc je pense que c'est ça qui a changé. C'est surtout une perspective qui a été différente, et puis surtout une envie de découvrir de nouvelles choses et de montrer un peu de quoi est-ce que j'étais capable, tu vois.
Ouais, je vois. Je vois complètement. Et justement, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas croisé la route du développement personnel, les choses auraient été différentes, mais surtout dans quelle mesure? J'imagine que la réponse est oui, évidemment, mais dans quelle mesure tu aurais vu les choses?
C'est une bonne question. Je pense que j'aurais suivi un schéma de vie pour le moment beaucoup plus classique, tu vois. J'aurais pas expérimenté toutes ces nouvelles choses. J'aurais pris beaucoup moins de risques. Et puis surtout, je pense que je me connaîtrais beaucoup moins. Parce que ça, c'est un des trucs avec le développement personnel qui est très important pour moi, et qu'on oublie souvent parce qu'on a tendance à se référencer aux personnes qui partagent des conseils et des astuces sur ce sujet-là, tu vois, précis. Mais on oublie souvent de revenir vers soi. Et donc ça, c'est un des trucs qui a le plus marqué ma vie et qui a eu un tournant peut-être le plus important, c'est la compréhension de soi.
Ouais.
J'ai vraiment appris beaucoup de choses sur moi-même à travers ça.
Et justement, je sais que tu as été aussi, notamment par ton parcours, une inspiration, un modèle et un guide pour ton petit frère qui lui aussi s'est mis à la création de contenu et qui a créé un business autour de ça. Des fois, tu en parles dans tes stories, etc. Si tu avais non pas les auditeurs du déclic, mais ton petit frère, et tu voulais lui donner quelques conseils qui ont fait une grande différence pour toi pour justement apprendre à se connaître, parce que ce concept de savoir qui tu es, apprendre à se connaître, c'est clair mais flou à la fois pour beaucoup de gens. Et du coup, certains se mettent la pression sur ça et parfois mettent des mois, voire des années à réussir à trouver les clés qui leur permettront de faire la différence en eux et chez eux pour eux. Quels seraient les différents conseils que tu donnerais si, encore une fois, celles et ceux qui nous écoutent, ce serait comme ton petit frère?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a un fléau dans notre société, c'est qu'on est trop dans la passivité. Tu vois, on consomme du contenu, on n'est pas assez actif. Et ça, c'est une des choses les plus importantes pour moi, c'est de retrouver du contrôle et surtout de retrouver une force d'action et d'expérimentation. En vrai, ça, c'est peut-être un des trucs les plus importants, mais je pense qu'on apprend à se connaître à partir du moment où on... Enfin, c'est un peu bateau de dire ça, tu vois, mais quand on essaye des choses, quand on se permet d'explorer de nouveaux domaines, eh bien, c'est souvent là où on apprend le plus sur soi. Donc ça, c'est la première chose pour moi, c'est, je sais pas, arrête de regarder des vidéos. Il y a une stat surprenante que partage Michel Desmurger dans la fabrique du crétin digital, c'est que sur 100% du temps passé sur les écrans, il y en a seulement 3% qui est utilisé à créer et 97% qui est utilisé pour consommer, tu vois. Ouais. Et donc ça met en évidence à quel point on vit dans une société qui consomme et qui ne crée pas, donc qui est plutôt passif que actif. Et ça, pour moi, c'est un des éléments les plus importants pour retrouver de la connaissance. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va vraiment apprendre à se connaître. Après des conseils, étant plus jeune, j'en aurais plein à me donner, mais c'est difficile, tu vois, parce que j'avais fait une vidéo sur ça où j'expliquais que, bon, bah, il y a 3 ans, je vivais une vie beaucoup plus classique d'étudiant, tu vois. Je sortais beaucoup, je faisais du foot, je fumais même à l'époque et tout. Mais pour autant, c'est pas spécialement une phase de ma vie que je regrette, tu vois, parce que en fait, à ce moment-là, mon prisme, ma vision, elle était quand même, mine de rien, en adéquation avec ce que je faisais au quotidien, même si ça peut paraître étrange, notamment parce que, comme je te l'ai dit, j'avais une vision un peu plus épicurienne. Et donc ça, c'est peut-être le vecteur le plus important, c'est la transmission, tu vois. C'est à partir du moment où on m'a montré en fait un nouveau chemin, on m'a dit que en fait il existait d'autres voies, d'autres moyens de vivre, etc. Et bien là j'ai commencé à m'y intéresser.
Ouais complètement. Et justement, on va y revenir sur tout ça. Et par cette réponse, on voit que tu as un côté aussi très analytique des choses, très cartésien, pragmatique. Tu fais référence aussi à des sources. Ce n'est pas la première fois, ça fait partie aussi de la création de contenu que tu fais. et la trame éditoriale que tu apportes justement sur, sur ta création. On va parler de création de contenu. Tu as commencé à créer du contenu d'abord sur YouTube pendant le confinement et peu de temps après, tu es allé sur TikTok. Comment est-ce que tu as vu évoluer la création de contenu depuis tes débuts ces dernières années? Quel changement est-ce que tu as remarqué dans l'attente du public et les tendances pour pouvoir performer, aller chercher ce type de résultats que tu as? Parce qu'on voit clairement une réelle maîtrise, une compréhension des algorithmes, des plateformes. À chaque fois que tu crées une nouvelle vidéo, en général, elle cartonne. Pareil sur les réseaux, tu as même été sollicité par de grosses personnalités, dont Yomi, pour ne citer que lui, parce que justement, tu l'avais évoqué notamment en story, pour que tu puisses créer du contenu éventuellement ou l'accompagner dans la création de contenu éventuellement. Donc, ça en dit long sur le fait que tu maîtrises vraiment le sujet et tu es reconnu par tes pairs pour maîtriser le sujet également. Donc, ouais, c'est quoi que tu as pu identifier justement sur ces différentes plateformes au fur et à mesure des ans?
Alors, il y, y a un truc dont parle Alex Hormozzi que j'aime bien dans 100 millions de leads, qui est un de ses derniers bouquins, comme quoi, en fait, on a tendance aujourd'hui à dire que les gens ont un problème d'attention, ce qui est partiellement vrai, tu vois, on le sait, le format court n'aide pas ça, bien au contraire. Cependant, il y a surtout, au-delà du problème d'attention, un problème de choix. Où en fait aujourd'hui on est noyé dans une possibilité de consommation de contenu qui est infinie, tu vois. Et donc on a affaire à un spectateur qui est devenu extrêmement exigeant. Tu vois, il y a 20-30 ans, t'avais envie de finir une bonne soirée après le taf. Bon, bah tu t'asseyais dans ton canapé et tu regardais la télé, tu vois. Et puis bon, bah tu choisissais, je sais pas, soit t'avais sur TF1 une émission sympa, ou W9, t'avais Malcolm, quoi, tu vois. Pas grand-chose d'autre. Ouais. Donc, ou sinon, tu lisais un livre. aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a une concurrence et il y a une offre qui est juste immense. Et donc, si aujourd'hui, le spectateur s'ennuie devant sa vidéo, il va très rapidement s'autoriser et se donner la permission de passer à autre chose et d'aller voir autre chose, tu vois. Et donc ça, c'est pour moi le plus grand changement de paradigme dans la consommation et la création de contenu, c'est que tu as affaire à quelqu'un qui, si ta vidéo n'est pas intéressante, il va partir. Il va partir parce que les autres options sont meilleures, en fait. Donc il va aller soit sur Netflix, il va aller soit regarder un autre créateur, il va aller sur TikTok, enfin bref, il va aller ailleurs. Et ça, c'est un des trucs les plus importants aujourd'hui dans ma création de contenu, c'est que sur les vidéos courtes notamment, si on parle de ça, je fais en sorte que chaque seconde ait une importance. En fait, moi, j'aime bien dire que chaque seconde doit payer son loyer, tu vois. Si elle est là, c'est qu'il y a une raison, elle doit servir à quelque chose. Et si je peux enlever une répétition, si je peux supprimer quelque chose, alors je le fais.
Okay.
Après, évidemment, c'est un petit peu dommage, tu vois, parce que ça pourrait manquer d'authenticité et puis ça pousse à s'adapter à ce consommateur qui est pas spécialement une adaptation souhaitée, tu vois. Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer cette course infinie à la création de contenu qui est de plus en plus rapide, avec de moins en moins de sources, qui est de plus en plus virale, qui manque de nuances, etc. Pas spécialement, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que moi, je suis en train de faire la bascule aussi avec YouTube aujourd'hui et que je m'exerce avec plaisir sur le podcast.
Ouais, complètement. Complètement. Merci pour cette réponse. Et justement, ça permet d'introduire parfaitement la suite. C'est, est-ce que tu as un process ou est-ce que tu peux nous détailler comment justement tu vas créer ton contenu de l'idée à la publication? C'est-à-dire comment tu t'assures que chaque contenu soit aligné avec toi, mais aligné aussi avec tes objectifs et surtout qu'il soit bien reçu par ton public? Parce que je le sais, tu vois, ça fait maintenant, pas que je te le dise de bêtises, mais 6-7 ans, peut-être même plus, que je crée du contenu sur les réseaux. Moi, pour ma part, j'ai plus été dans un contenu éducatif ou informatif avec cette optique quasiment directe de vouloir le monétiser par différents biais. Or, toi, tu as d'abord été dans cette dynamique de créer du contenu, certes, dans une optique de divertissement, avec des codes de YouTube, des codes de la vraie création de contenu, des créateurs de contenu tels qu'on les connaît aujourd'hui. Je vais citer par exemple Michou, Inoxtag, Cyprien, Squeezie, des choses comme ça, mais rapportés à des éléments qui vraiment apportent de la valeur. Je ne dis pas qu'eux n'en apportent pas, mais toi, tu as vraiment cet axe d'apport de valeur. Et ensuite, tu as eu justement la dimension, ok, maintenant que j'ai établi quelque chose, j'ai une certaine notoriété, j'ai une certaine visibilité, je vais voir dans quelle mesure je peux potentiellement les monétiser. On va en parler aussi. Mais ouais, est-ce que tu as un process, un framework que tu as identifié, que tu appliques en général pour justement réussir à créer du contenu qui va fonctionner?
Alors, moi, je pars toujours de l'idée, c'est la chose la plus importante. Et en fait, comme on sait aujourd'hui à quel point les 3 premières secondes pour des vidéos courtes, mais en fait, même pour des vidéos YouTube, les 10 premières secondes, le titre, ta miniature sont les choses les plus importantes. Moi, tant que j'ai pas ça, je ne commence pas à créer une vidéo. Et en fait, c'est souvent comme ça que vient mon contenu, où il y a une tendance qui m'intéresse, tu vois. Parce que ça, c'est aussi quelque chose de très important pour moi, c'est que souvent, en fait, ça part, ma création part de mes intérêts du moment, tu vois. Qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me stimule, qu'est-ce que je suis en train de lire, quelle vidéo j'ai vue récemment, quelle personne j'ai rencontrée. Et j'aime bien partir de ça, parce qu'en fait, je suis le premier intéressé à créer la vidéo. Mais avant de commencer et de rentrer dans tout ce processus de création, il y a, OK, comment est-ce que, en fait, je vais vendre l'idée? Comment je vais proposer aux gens que cette idée, elle est bien, elle est intéressante, et comment est-ce que je vais faire pour les convaincre de cliquer? Donc, en fait, ça, c'est les 2 plus grandes étapes. C'est, OK, quel est le sujet un peu cool dont j'ai envie de parler? Comment est-ce que je vais l'amener? Comment je vais le rendre sexy? Je vais le rendre intéressant. Et à partir du moment où j'ai ça, parce que moi, il faut savoir qu'en fait, avant même que je commence à tourner ma vidéo, j'ai déjà un titre et des miniatures de prête, tu vois? Parce que c'est important et ça me permet de me projeter et ensuite d'axer ma vidéo aussi en fonction de ça. Donc ça, c'est les premières étapes. Et après, parce que j'aime bien aussi dire que la créativité naît de la contrainte, tu vois. Donc quand tu as une idée, un framework qui t'oblige à aller dans cette direction, eh bien tu vas trouver des solutions pour aller dans cette direction, tu vois. Donc en gros, c'est comme ça que j'axe ma création. Et puis moi, je fais en sorte de conserver un maximum aussi d'input, tu vois. J'essaye de lire 1 heure par jour, tu vois, de regarder des vidéos sur YouTube assez fréquemment, mais dans une démarche vraiment proactive, tu vois. Et ça me nourrit beaucoup aussi.
Ok, ouais, je vois complètement, c'est intéressant. Et avec le succès, pardon, de tes formats courts sur les réseaux, est-ce que tu penses que cela a un impact négatif au global sur le niveau d'attention des gens? Comment est-ce que tu vois l'équilibre en fait entre captiver rapidement ton audience et les encourager à une attention plus longue? Parce que je m'explique le fond de ma pensée. Je vois beaucoup de créateurs de contenu qui, par exemple, cartonnent sur les formats courts, mais lorsqu'ils vont se mettre à YouTube, malheureusement, leur audience ne va pas les suivre. Et donc, ils vont avoir des vidéos YouTube très peu vues, avec très peu de visibilité. Ou inversement, des gens qui vont cartonner sur YouTube, qui vont rester sur YouTube, mais qui ne vont pas faire le choix d'aller sur du format court, parce que ça n'a pas forcément marché et ils ne connaissent pas forcément les codes. Or, toi, tu fais partie de ces rares créateurs de contenu qui, en plus, pour couronner le tout maintenant, tu as réussi aussi à monétiser cette audience, on va en parler, mais tu arrives à cartonner d'une part sur YouTube, en format, on va dire, long ou moyennement long, parce qu'on est sur des vidéos qui vont durer entre 10 et 20 ou 30 minutes, sauf erreur de ma part, et aussi sur du format court, où là, bah, ce sont des vidéos qui vont durer entre 45 secondes et 1 minute 30. Or, c'est deux façons de consommer le contenu qui sont complètement différentes, et parfois aussi deux audiences qui sont complètement différentes. Et selon ma perception extérieure de la chose, en regardant comment justement tu évolues sur les réseaux, j'ai l'impression que, en fait, cette audience, tu as réussi à faire en sorte qu'elle te suive, quelle que soit la plateforme et quelle que soit la typologie de contenu que tu vas créer. Comment tu as fait? Est-ce qu'il y a un secret derrière? Est-ce que tu as identifié quelque chose? Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
En fait, déjà, j'ai envie de dire qu'aux créateurs de vidéos courtes qui n'arrivent pas à faire des vidéos, enfin des vues sur les vidéos longues, c'est tout simplement parce que leurs vidéos longues sont pas bonnes dans le sens où elles intéressent pas assez de gens, tu vois. Et certes, il y a un phénomène qui est que quand tu postes une vidéo, le premier échantillon, ça va être tes abonnés. Donc si tes abonnés cliquent pas ou regardent pas beaucoup la vidéo, ça veut dire que la vidéo ne va pas être propulsée et va pas faire plus de vues. Moi, c'est mon cas aujourd'hui, hein. Tu vas dans mes stats YouTube, aujourd'hui, j'ai 80% de mes abonnés qui viennent des vidéos courtes. Donc sur les 400 000, j'en ai plus de 300 000. Et pourtant, j'arrive quand même à faire des vues sur le format long. Mais c'est parce que, en fait, j'ai vraiment repris les codes que je m'appliquais sur les vidéos courtes, sur le format court, où il faut que la vidéo soit intéressante, que je choisisse un bon sujet, que je travaille mon hook, que je travaille mon intro, que chaque seconde soit pertinente pour le spectateur, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai appliqué ces principes au format long, bah c'est là où ça a cartonné. Et donc, en fait, cet échantillon test qui va être habitué au format court, il y en a... Enfin, s'il fait partie de l'échantillon test sur la vidéo longue qui décide de cliquer, eh bien là, en fait, la responsabilité t'appartient, tu vois. Moi, je pars toujours de ce principe que si une vidéo ne marche pas, c'est que c'est de ma faute, c'est qu'il y a des endroits où je n'ai pas été assez captivant, où je n'ai pas été assez bon, et c'est comme ça, tu vois.
Ouais, je vois. Et tout autre sujet, parlons de sujets qui justement font aussi le succès de ce que tu fais, c'est le côté, j'ai envie de dire, dépassement, aventure, mais aussi philosophie, méthodologie, discipline. Tu es aussi connu aujourd'hui justement pour ta discipline, ta routine quotidienne structurée, ton engagement vers l'apprentissage continu. Comment ces habitudes se traduisent-elles concrètement dans ta vie du quotidien ? Est-ce que tous ces éléments, tu les partages juste une fois au travers de tes vidéos YouTube pour montrer comment c'est de mettre ça en place dans sa vie au quotidien, etc. Ou vraiment, c'est un truc qu'aujourd'hui, tu as gardé, tu appliques et dans quelle mesure ça se traduit ?
Alors, concernant les routines et les habitudes, je suis passé par beaucoup de phases différentes. J'ai essayé pas mal de choses et aujourd'hui, je garde une structure qui évolue encore, tu vois. Donc, typiquement, il y a 6 mois, je pourrais te dire que ma morning routine, c'était de me lever, d'aller lire, d'aller faire du sport et ensuite de prendre un petit déj, une douche froide et tout. Puis aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Quoique, il y a encore certaines activités que j'ai conservées. Donc, en fait, moi, j'aime bien dire que aujourd'hui, je m'autorise une structure qui est un peu plus libre, mais qui conserve quand même des fondamentaux. C'est-à-dire que tous les jours, je vais au moins travailler 3-4 heures en deep work, donc vraiment sans distraction. Tous les jours, je vais lire. Tous les jours, je vais faire du sport. Tous les jours, je vais prendre une douche froide. Tous les jours, je vais manger, on va dire, sainement à 80% de mes repas. Et ça, c'est des fondations, en fait, que je veux conserver. Mais maintenant, comme je suis amené à voyager, à travailler dans différents endroits et tout, j'avais vraiment comme envie d'avoir une structure qui est assez résiliente, tu vois. Et ça, c'était très important parce que souvent, quand on a des routines et des habitudes, il suffit que, je sais pas, on soit invité quelque part, puis le lendemain, du coup, on va se réveiller plus tard, et puis ça va être compliqué d'aller faire ce qu'on avait prévu. C'est pour ça que je te dis que la routine a pas mal évolué et qu'aujourd'hui, il y a juste des activités à faire dans la journée, mais peu importe la manière dont c'est réparti. Et il y a juste aussi un truc que j'ai pas dit, c'est que tous les jours, dès que je me lève, je vais dehors aussi pour prendre la lumière du jour.
Ok, très clair. Et outre la partie, on va dire, discipline, action, méthodologie et autres, tu t'es aussi imposé certains challenges. Moi, la fois où je t'ai rencontré, c'était justement suite à cette fameuse vidéo où tu as fait, je crois, Paris ou France, Dubaï à pied. Avec
sans argent, ouais.
Sans argent, avec voilà, ouais, sans argent ou et c'est assez dingue, tu vois, c'est assez dingue finalement. Tu te dis mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui a motivé ça? C'est quoi, c'est le goût du challenge, c'est l'aventure, c'est l'envie de faire quelque chose? Est-ce que c'est guidé uniquement par la volonté de créer du contenu de manière originale? Raconte-nous typiquement cette expérience, les leçons qu'il y a eu derrière ça, et finalement en combien de temps vous avez fait ça? Parce que j'ai vu une partie de la vidéo, il y a eu des histoires où d'un coup t'as pas envie de payer ton bus, tu pars en courant, tu te fais courser par la police ou par les contrôleurs du bus, enfin il y a plein d'histoires, mais ouais, ça peut être intéressant de revenir sur cette aventure.
Ouais, carrément, c'était une aventure qui était vraiment géniale. Alors, concernant les motivations un peu premières, il y en avait plusieurs. Je dois avouer que aujourd'hui mon fonctionnement de pensée est un petit peu drivé par la création de contenu, et donc je savais que c'était une idée un peu sexy, et ça m'a évidemment poussé davantage à continuer le challenge et surtout à m'y tenir, Parce qu'il y avait aussi un engagement, comme quoi auprès des gens, j'avais annoncé que j'allais faire Dubaï sans argent, qu'on avait commencé et donc il fallait continuer. Mmh. Après, sinon, moi, je suis quelqu'un qui aime bien le chaos, qui aime bien l'aventure et qui aime bien aller à la rencontre des gens aussi. Et donc là, c'était une opportunité pour moi de faire ça. Donc c'est ce que j'ai fait, tu vois. Comme je te disais précédemment, il y a des phases de ma vie où j'ai été vraiment très, très discipliné, très, très organisé, très, très routinier. Donc j'avais une phase de vie avec énormément d'ordre. Et au bout d'un moment, j'avais besoin de davantage de chaos, tu vois. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette aventure. Et puis après, ouais, on s'est, donc j'ai fait ça avec un pote à moi qui s'appelle Louis Axel, que j'ai d'ailleurs dû un petit peu traîner, parce que en vrai, il y avait que moi qui voulais faire ça à la base, et lui, il n'était pas spécialement chaud, mais bon, j'ai réussi à le faire suivre dans l'aventure, même s'il n'avait pas de carte d'identité ni de passeport quand on est parti. Donc ça a été une de nos grosses galères. On a dû faire son passeport d'urgence en Slovénie, à Ljubljana. Et puis sinon, on a mis 8 jours pour atteindre Dubaï sans argent. Et en fait, on a fait tout le voyage en stop jusqu'à la Turquie. Et une fois arrivé en Turquie, on a pris un billet d'avion avec tout l'argent qu'on avait récolté durant le voyage. Et on a aussi récolté encore de l'argent dans l'aéroport. Et on a pris un vol pour Dubaï.
Ok. Et c'est quoi les leçons justement que tu retiens de cette aventure?
Déjà que... la nécessité est la mère de l'invention, un truc, c'est une citation dans ce style qui dit que en fait à partir du moment où tu c'est exactement comme avec la créativité, quand tu t'imposes des contraintes, tu finis inévitablement par trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment très très surprenant, mais en fait t'as pas d'argent, tu sais, enfin en fait t'es dans une situation qui est beaucoup plus difficile que d'habitude, tu vois, et pourtant tu arrives à trouver des solutions. On n'a jamais dormi dehors, on n'a jamais eu extrêmement faim, tu vois, on a tout le temps eu à manger gratuitement, on a tout le temps trouvé des voitures, alors que c'était impensable, tu vois.
Ouais.
Et donc, il y a vraiment cette idée que j'adore, qu'à partir du moment où tu vas t'imposer des contraintes, tu vas te mettre dans une situation difficile, tu as les ressources en toi et tu vas trouver un moyen, surtout si tu t'es engagé auprès des gens, ton identité en dépend. Même ta survie peut-être, tu vois, et bah forcément tu vas y arriver.
Ouais, complètement.
Ça, c'est une des plus grandes leçons.
Et justement, merci pour ce partage, et c'est drôle que tu me parles de ça, effectivement, c'est la nécessité et mère de l'invention. Et là, vous allez vous lancer à partir de janvier, si on peut en parler, dans un nouveau challenge avec un ami à toi que je connais aussi très bien et qui était présent sur le podcast, qui est Jean. Et le concept, c'est en gros passer de SDF à millionnaire. En 30 jours ou en X jours, ou en tout cas réussir à sortir de ça, et vous allez tout filmer aussi. Et donc, tu démarres avec un sac à dos et absolument rien en poche, et après, tu dois créer un business, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça. Ça a même duré beaucoup plus que 30 jours. On s'est dit qu'on avait jusqu'à un an, tu vois, pour le faire.
Ok.
Et j'ai vraiment hâte que ce challenge commence, parce que tu vois. Là, je suis dans une phase de ma vie où il y a beaucoup d'ordre, beaucoup de travail, beaucoup de routine, etc. Et donc, ça va me faire beaucoup de bien de casser un peu ça et de repartir à l'aventure. Et je crois que j'ai vraiment besoin chaque année d'avoir cette dose un peu d'aventure, et le faire avec Jean, donc, qui est aujourd'hui mon coloc et qui a monté Webinar Agency, pour ceux qui connaissent, une agence de marketing en ligne. Et lui, ça fit parfaitement, en fait, parce qu'il aime aussi l'aventure. Il a également l'approche un peu business, etc. Et je ne sais pas du tout comment on va faire. Je sais pas, enfin, même moi, je n'ai jamais gagné 1 million d'euros dans ma vie. Mais ce n'est pas grave, en fait, j'y crois.
Ok, donc en gros, votre projet, vraiment, c'est partir à deux, sans rien. Un sac à dos, éventuellement, une tente, un sac de couchage, ou j'en sais rien. Vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas un sou, vous n'avez pas un compte en banque, vous n'avez pas un contact. Et vous vous donnez.
On a un téléphone.
Vous avez un téléphone. Un téléphone, ok. Pour filmer, pour l'utiliser, pour quoi faire?
Ouais, pour filmer, on a le droit de l'utiliser, c'est ok le téléphone.
Ok. Et le but, c'est un an pour générer 1 million d'euros.
Ouais, c'est ça. Avec surtout la première phase qui va être la plus intense, à mon avis, qui est de complètement repartir de zéro, et donc de faire face de nouveau à, ces problèmes de logement, comment est-ce qu'on va faire pour se nourrir. Okay. On va commencer le 6 janvier aussi, donc il fera froid. Pas mal de problématiques auxquelles, encore une fois, je n'ai pas de solution pour le moment, mais okay. On verra en temps voulu.
Ok, et typiquement, si ça dure un an, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez devoir prendre un appart, payer un loyer, payer à manger. Mm-hmm. Donc ça fait partie du challenge.
Ouais, carrément.
Ok, incroyable, incroyable. Bah, écoute, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à venir sur tes réseaux, sur les siens, à aller suivre ça. Je ne sais pas quand va sortir cet épisode, mais ça se trouve, ça sera déjà lancé. Donc, parce que même moi, j'ai hâte et je vais suivre ça. C'est un peu, en fait, le remake de Undercover Billionaire qu'avait fait notamment Grant Cardone ou d'autres aux États-Unis. Mm-hmm. Et on repart de zéro et on doit créer, justement, quelque chose, quoi.
Exactement, exactement. Avec nous, on aura une approche un petit peu plus, un peu plus maison, tu vois.
Ouais.
Parce que on a hésité à faire quelque chose d'un peu plus professionnel avec des caméramans et tout qui nous suivent, mais ça impacterait trop le défi à mon avis. Mmh. Ce serait dommage. Et puis j'ai vraiment envie de conserver ce côté un peu authentique où bah c'est toi qui te filmes, c'est toi qui parles à la caméra,
ouais.
C'est toi qui construis la vidéo, etc. Mais ouais, ça ressemble pas mal à ça.
Ok, excellent. Et justement, en parlant de liens, d'authenticité, de proximité avec l'audience, etc., j'ai eu l'opportunité ces dernières années de côtoyer bon nombre de gros créateurs de contenu, dont des youtubeurs qui ont un million ou plusieurs millions d'abonnés sur leurs réseaux sociaux ou autres, qui sont là depuis des années et des années, et qui m'ont souvent remonté l'information, même lorsque je les avais en tant que client consulting, qu'il était assez difficile et compliqué de parler d'argent avec leur communauté, parce qu'on le sait, toi et moi notamment, en France, l'argent c'est un peu tabou, les gens sont assez hypocrites avec le succès, ils détestent le succès, mais en même temps ils ont tous envie de réussir, et toutes ces choses-là. Et toi justement, t'as pris cette décision, t'as eu le courage aussi, l'audace d'oser prendre cette décision à un moment donné, très récemment, eh bien, de monétiser ton audience, de passer de la casquette de créateur de contenu à la casquette d'entrepreneur. Ça implique un vrai changement aussi dans ta posture. Et je te posais la question en rigolant, mais je te disais voilà, qu'est-ce que ça fait maintenant d'avoir 100 000 euros sur ton compte, parce qu'effectivement tu as travaillé avec ton ami Jean qui est, et je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts donc je le redis ici, qui est justement un prodige des webinaires, qui est vraiment une personne que j'apprécie énormément, dont je reconnais le talent et le travail, et de toute façon ça lui enverra pas de clients parce qu'il a déjà une liste d'attente plus longue encore que le nombre d'abonnés que certains ont sur Instagram. Donc ce que je veux dire par là, c'est que voilà, lui il s'est occupé, on va dire, de l'infrastructure marketing, webinaire, enfin j'imagine, hein, je fais des suppositions ici,
exactement.
Et toi tu as eu la visibilité, l'image, le lien avec la communauté, et puis bien sûr la méthodologie, le produit qui est ta propre méthodologie que vous avez commercialisé, et boum, premier Webby, vous faites quelque chose comme plus de 100 000 euros dès le premier Webby, donc félicitations, c'est plutôt des beaux résultats. Moi ma question, c'est pas forcément décortiquer le résultat et autres, parce que c'est une vanity metrics et puis chacun fait les résultats qu'il peut faire, qu'il a, qu'il mérite. C'est plus comment tu as abordé l'éventuelle crainte, risque ou peur, appelons ça comme on veut, où tu t'es peut-être dit dans quelle mesure les gens vont me percevoir, mon audience va me percevoir, est-ce que je vais pas cramer tout ce que j'ai fait ces trois dernières années en créant du contenu, en apportant de la valeur, en construisant une audience, en créant un lien de confiance entre ceux qui me suivent et moi, et comment ils vont me percevoir en pensant que peut-être j'ai juste envie de leur vendre un truc, et passer avec la casquette du mec qui juste veut vendre une formation, qui est malheureusement, et pour des raisons souvent légitimes, mal perçue, parce que certaines personnes justement ne sont pas forcément des plus légites à vendre des programmes de formation ou autre. Comment tu l'as vécu cette transition-là, parce que ça fait quand même une grande différence.
Ouais, c'est vrai que c'est pas une transition facile, notamment quand ça fait longtemps que tu crées du contenu gratuitement. Moi, ça fait 3 ans, et j'avais vraiment cette peur et cette crainte de décevoir les gens qui me suivaient, parce que bon bah comme tu l'as bien dit, hein, en France c'est un petit peu compliqué. Il y a une image du formateur, de l'infopreneur qui est vraiment connotée négativement, malheureusement. Et donc j'ai mis beaucoup de temps, parce que ça fait longtemps, et au vu des contenus que je traite, etc., c'était une suite un petit peu logique, et moi, j'avais envie de le faire, tu vois. Mais c'est vrai que je n'osais pas. Et puis, en fait, encore une fois, J'ai remarqué que dans ma vie, les moments où il y a des choses qui m'attirent mais que j'ose pas, typiquement c'était le cas il y a pas longtemps avec le MMA, où il y a un an, j'y suis allé, j'ai fait un entraînement d'essai et tout, mais j'ai pas continué, tu vois. Et je sais pas, il y a ce truc qui te dit vas-y, vas-y, ça te fait peur, tu le sais, mais tu sais pas pourquoi, il y a une force qui t'attire vers ce truc, et la vie va venir plusieurs fois te rappeler que, ah tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, pareil pour le MMA, tu vois, en septembre, là, je m'y suis mis. Et pour les formations en ligne, c'est exactement la même chose. J'avais Jean dans mon entourage qui était là, qui m'en parlait de plus en plus. Et puis, au fur et à mesure, j'ai rencontré de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux infopreneurs. Il y a des graines qui ont commencé à se planter. Et je me suis dit, bon, bah voilà, il faudrait le faire. Et donc, j'ai décidé encore une fois de passer ce pas, qui n'était pas facile. Mais quand on va dans cette direction un peu qui nous fait peur, souvent, c'est là où on obtient des résultats qui sont intéressants et surtout qu'on apprend aussi à se connaître. Donc moi, je pense que j'ai une vraie peur du rejet. Et donc ça, c'est quelque chose peut-être qui m'effrayait le plus, de voir que les gens étaient déçus, que les gens allaient se désabonner, que les gens allaient me critiquer. C'est pas facile à vivre, tu vois. Même si j'y suis exposé tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui commentent mes vidéos et qui disent que c'est de la merde, tu vois. Mais ça me fait rien parce que enfin, les gens qui commandent ça, j'ai pas spécialement envie qu'ils m'aiment, enfin qui me suivent, tu vois. Et je me suis fait exactement la même réflexion avec le business et l'entrepreneuriat, où en fait les gens qui ont cette croyance selon laquelle vendre quelque chose c'est pas bien, il faut pas parler d'argent c'est pas bien, eh ben je me suis dit que peut-être c'était pas spécialement des gens que j'avais envie qu'ils me suivent, tu vois. Alors, attention, j'ai pas envie de faire le switch trop brutalement non plus. Et puis, il y a une vraie éducation à faire sur ce sujet, comme tu le fais si bien avec le déclic et tous tes contenus, tu vois. Mais je me suis dit, au bout d'un moment, voilà, en fait, je vais pas m'empêcher de faire quelque chose, soi-disant, parce que les autres vont pas être contents. C'était pas possible de faire ça.
Je vois, je vois. Et justement, finalement, beaucoup d'a priori, avec du recul, maintenant que c'est passé, comment les gens ont réagi? Est-ce qu'ils sont plutôt enchantés, super contents, motivés, enjoués, ou est-ce que justement ces a priori étaient justifiés?
Je saurais pas te dire exactement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient contents parce que bah, c'est un produit qui correspond à un besoin et un besoin dont beaucoup de gens avaient réellement envie de rejoindre, parce qu'en fait j'ai fait une formation sur la création de contenu, tu vois, et donc il y a plein de petits créateurs qui me suivent, ou même des gens qui ont juste simplement envie de se lancer et qui avaient envie d'avoir ce petit déclic un petit peu dans leur vie, tu vois. Et ça l'a été pour certains. Après, je sais pas, déjà on a l'impression, on a cet effet projecteur comme quoi tout le monde a vu qu'on avait mis de la pub sur Facebook et qu'on avait posté 2-3 vidéos où on faisait de la promo pour notre conférence en ligne. Mais je pense qu'en réalité, il y a plein de mes abonnés qui ont même pas vu l'info passer, tu vois. C'est là où peut-être que j'ai pas été assez bon dans ma stratégie de contenu. Mais non, en fait, beaucoup de craintes injustifiées. Je pense que d'ici 2 semaines, parce que là pour le moment j'ai pas encore relancé très fortement ma création de contenu, tu vois, mais d'ici 2 semaines, bah, les gens ils auront oublié, quoi.
Ouais, c'est intéressant le message que tu partages ici parce qu'il y en a plusieurs. Un, dans tous les cas, dans 2 semaines, les gens auront oublié. Donc, que ce soit positif ou pas, ça passe. Deux, même quand tu as une approche quand même assez claire, importante, parce que tu as publié quand même plusieurs stories à cet égard, j'imagine aussi quelques contenus shorts, tu as fait aussi des publicités. Et pourtant, il y a des gens dans ton audience qui t'ont dit bah, j'ai même pas vu le message passer. Donc ça en dit long justement sur un, la densité de l'audience, mais deux aussi le fait que les audiences tournent. Donc c'est pas forcément grave. Et puis finalement, le dernier message, et peut-être le plus important, c'est que la plupart des doutes, des inquiétudes que tu exprimais, que tu avais en interne, n'étaient même pas justifiées parce qu'elles ne se sont pas matérialisées. Et pour autant, bah, derrière, tu as réussi à faire, j'imagine, peut-être le double de ton chiffre d'affaires annuel ou ton chiffre d'affaires annuel en une soirée. Et ça fait toute la différence quand tu veux justement passer de créateur de contenu à entrepreneur. Et j'ai vraiment l'impression, et on y reviendra notamment sur ta volonté d'apprendre, de t'améliorer, le fait que tu lis énormément, le fait que tu sois dans cette vision de développement personnel et de côtoyer des entrepreneurs au quotidien, bah, que tu es un créateur de contenu, mais finalement, au fond de toi, tu as plus cette âme d'entrepreneur que de créateur de contenu. Je me trompe peut-être?
Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas encore la réponse. Jusqu'à présent, je me considère quand même plus comme un créateur
Ok.
qu'un entrepreneur,
Ok.
mais pour moi, la création, c'est une vraie vision entrepreneuriale en réalité, notamment parce que, bah, en fait, quand je crée une vidéo, c'est un vrai projet entrepreneurial où je vais me questionner, je vais étudier le marché. Enfin, il y a vraiment plein de processus qui ressemblent, tu vois. Et ça, c'est une de mes craintes auxquelles je veux faire attention, c'est de pas délaisser la création uniquement au profit de l'entrepreneuriat, tu vois, et de la formation, typiquement. J'ai vraiment envie de continuer à créer beaucoup,
Ouais.
quitte à même gagner moins d'argent, tu vois, c'est complètement OK pour moi.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est sûr que je suis vraiment un entrepreneur dans l'âme, tu vois, mais peut-être avec le style, la petite couronne créateur que plus entrepreneur au sens premier, quoi, disons.
Complètement. Complètement. Et justement, dans cette dynamique, tu vois, tu aurais pu faire le choix en gagnant plus de 100 000 euros en 2, 3, 4 heures, de te dire bah, toutes les semaines, je vais faire des webinaires. Mais du coup, finalement, bah, c'est aux dépens de la création de contenu, aux dépens du lien que tu vas créer avec ton audience, etc. Et j'imagine que tu es plus dans une dynamique où bah, tu vas te dire, je vais faire un lancement peut-être tous les mois ou tous les 3 mois, gagner certes beaucoup moins, mais par contre, rester focus sur mon élément principal, c'est construire une audience.
Ouais, exactement. Typiquement, je le trouve marrant le pied de nez d'aller à la rue dans un mois, tu vois. Ou en fait, j'ai fait 100 000 euros, mais fondamentalement, moi, je m'en fous un peu, tu vois. Ce qui compte, c'est surtout ce process que j'adore. Et repartir de zéro, c'est OK, j'ai envie de me lancer et de tester un nouveau challenge, tu vois. Donc, ouais, j'ai vraiment pas envie de faire ça toutes les semaines. C'est pas mon approche. Et je prends du plaisir, tu vois, à faire des conférences en ligne, à créer ma formation. Là, il y a un vrai processus aussi de création, mais ça, je pourrais pas faire ça au quotidien.
Et qu'est-ce qui te drive dans tout ça? C'est quoi l'objectif? C'est l'impact? C'est la reconnaissance? C'est le fait de devenir l'influenceur numéro un? C'est le fait de devenir le Hormozy francophone ou un autre influenceur américain qui peut-être t'a motivé plus qu'un autre? C'est quoi la finalité de tout ça?
Je sais pas, je suis un petit peu tiraillé par rapport à ça. Il y a une partie de moi qui a envie de devenir le number one, le plus fort, le plus riche, le plus tout ce que tu veux, tu vois. Et puis il y a une partie de moi qui a compris que bon bah ça avait pas de fin, tu vois. C'était un jeu infini. Donc je sais pas en fait. Moi ce qui compte c'est qu'il y a un processus d'amélioration, il y a un processus d'expression, il y a un processus de vie, tu vois. Après, comment est-ce qu'il se matérialise, ça a assez peu d'importance, tu vois. J'essaye de plus en plus de sortir des métriques et de juste retrouver un kiff au quotidien, tu vois. En fait, c'est ça. Moi, je suis beaucoup drivé par le kiff, mine de rien.
OK.
Et comme je prends beaucoup de plaisir dans l'accomplissement et dans le. Quand je me challenge, j'essaye des trucs, je me dépasse et tout. Bon bah forcément, ça fait que je suis capable d'aller chercher des résultats qui sont cool à certains moments, mais il n'y a pas que ça, quoi.
Ouais, complètement. Et justement, en tant que quelqu'un qui est toujours avide d'apprendre, de s'améliorer, et qui plus est, qui a fait ce switch à partir du moment où tu as découvert le développement personnel, et donc que tu es sorti un petit peu du cadre traditionnel, qu'est-ce que tu penses des méthodes d'enseignement et d'apprentissage dans le parcours scolaire traditionnel ou dans la société actuelle, bah surtout dans le contexte d'un monde qui évolue aussi rapidement en 2023, en 2024?
Ouais, bah bon, en vrai c'est assez facile de critiquer le système éducatif, mais notamment en France. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait changer, qu'on pourrait faire évoluer. Typiquement, l'anglais, j'ai fait, je sais pas, 10 ans de cours au collège, au lycée confondu, tu vois, et en primaire. J'ai jamais réussi à parler anglais, alors que bah là ça fait 2 ans que j'ai appris un petit peu en autodidacte, tu vois, et maintenant je parle bien anglais, quoi. Et ça c'est fou, et c'est vrai pour plein d'autres trucs. Pareil, de mes 0 à 18, j'ai dû lire 2 livres dans ma vie. Là, j'en ai lu 100 hein, depuis que j'ai arrêté l'école, tu vois. Donc en fait, depuis que j'ai quitté l'école, j'ai jamais autant appris, j'ai jamais autant lu, j'ai jamais autant découvert, j'ai jamais été autant curieux. Et ça, vraiment, ça me surprend. Et il y a une vraie résignation à l'école où, en fait, je sais pas, tu on te force, on t'oblige à apprendre des choses qui ne t'intéressent pas, et donc tu as une aversion à l'apprentissage, en fait, tu vois. Et donc, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire évoluer, mais aujourd'hui, on a de la chance, on a des plateformes qui sont géniales comme YouTube, où on peut apprendre tout et n'importe quoi, et ça c'est extraordinaire.
Ouais. Est-ce que tu penses pas, c'est vraiment une question que je me pose, mais toi qui aujourd'hui as vécu ce changement et vu cette différence, est-ce que tu penses pas que justement le fait de ne pas être ouvert à tous ces éléments du développement personnel ou autre, ça crée pas une dette de connaissances et une dette d'ouverture d'esprit à la capacité à n'importe quel individu d'aller justement créer sa propre vie qui lui ressemble par rapport justement au système, quoi.
Ouais, clairement. Si je reprends mon exemple et ce que je t'ai dit précédemment dans le podcast, c'est que moi, jusqu'à mes 18-19 ans, tout se passait plutôt bien dans ma vie, où j'avais un quotidien un petit peu classique d'étudiant. Et puis, c'est le jour où, en fait, j'ai appris que cette voie existait, tu vois, que je me suis dit « Ah, en fait, c'est génial, c'est hyper intéressant. » Mais comment est-ce que je l'ai découvert ? C'est sur YouTube, c'est pas à l'école. En fait, je l'ai conscientisé davantage à ce moment-là, même si quand j'étais plus jeune, je faisais du foot à haut niveau, et donc j'avais cette envie de devenir meilleur, de bien m'entraîner, de bien dormir, de bien manger, etc., de bien travailler à l'école, machin, tu vois. Mais c'était pas aussi fort, je savais pas spécialement pourquoi je le faisais. Et si, en vrai, ça serait génial. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire aussi avec mes vidéos, tu vois. Et je trouve ça incroyable. D'ailleurs, il y a plein de gens aujourd'hui qui, à travers mon contenu, ont découvert le développement personnel. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que ça signifiait ? Et surtout, qu'est-ce que ça pouvait leur apporter, tu vois ? Et ça, c'est peut-être une des plus grandes fiertés aujourd'hui avec la création, tu vois. C'est de répandre le message. Et c'est d'ailleurs aussi là où les vidéos courtes ont amené un tournant, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas sur TikTok ou Instagram Reels, par exemple, tu ne choisis pas la vidéo que l'algorithme va te montrer, tu vois. Et donc, y a plein de gens qui n'auraient pas spécialement cliqué sur une vidéo de dev perso sur YouTube parce que, je ne sais pas, ça ne les intéressait pas à ce moment-là. Et un jour, j'ai fait une vidéo qui parlait de développement personnel, mais un petit peu déguisée, disons. Et ils se sont retrouvés scotchés, ils l'ont regardé. Et il y a eu un switch et un premier pas dans la marmite, quoi.
Ouais, complètement. Et justement, pour faire ce premier pas dans la marmite, toi qui lis énormément de bouquins, malgré le fait qu'à l'école, tu en as lu très peu, comme tu l'évoquais, quels livres ont particulièrement influencé ta vision du développement personnel ou en tout cas ta vision de la vie en général ? Tu conseillerais aujourd'hui à quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait peut-être faire ses premiers pas dans cette industrie, dans ce monde-là, pour pouvoir s'éveiller et grandir progressivement ?
Ouais. Alors, moi, un des premiers bouquins que j'ai lu qui m'a pas mal retourné le cerveau, c'était le Pouvoir des Habitudes de Charles Duhigg. Je sais pas si tu l'as lu, mais ça, vraiment, ça m'a pas mal transformé. Et en fait, je me souviens que tu t'exaltes limite pendant que t'es en train de lire le livre, tellement c'est incroyable, quoi, tu vois. Et moi, j'en parlais avec mes proches, je leur disais mais c'est fou, pourquoi on m'a jamais parlé de ça et tout, enfin, c'est extraordinaire, quoi. Mais par contre, je pense que si je le consommais de nouveau, ce livre, j'apprendrais plus grand chose et j'aurais sûrement l'impression que c'est un petit peu bateau, tu vois.
Ouais.
Mais c'est pour ça que c'est difficile de conseiller des livres à des gens, parce que on va vraiment pas tous raisonner de la même manière. Mais typiquement, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ça et qui a envie de le découvrir, je conseillerais peut-être L'effet cumulé de Darren Hardy, Atomic Habits de James Clear, que je trouve cool. Sinon, pour des gens qui veulent qu'on va qualifier d'un peu plus avancé, bon, y a un bouquin qui m'a vachement transformé, c'est Antifragile de Taleb.
Ouais.
C'est un sacré pavé de 800 pages que j'ai lu deux fois, parce qu'il est un peu compliqué des fois. Mais vraiment, ça, c'est peut-être le livre qui a eu le plus d'impact sur moi sur ces trois dernières années, quoi.
S'il y a un truc que tu as retenu de ce bouquin, que tu as envie de partager, c'est quoi ? Parce que Antifragile, le concept en tant que tel, il est extrêmement puissant. C'est quelque chose que j'applique dans chacun de nos business depuis maintenant, depuis la compréhension de ce concept. Toi, de ton côté, s'il y a un truc que tu as retenu, que tu as envie de partager, c'est quoi ?
Ah, c'est dur ça.
Ah, si on a deux, ça va aussi. Hein.
peut-être la notion de skin in the game,
ouais.
qui est un autre livre de Taleb, mais dont il parle beaucoup dans Antifragile, comme quoi à partir du moment où tu joues ta peau, tu es engagé dans ce que tu fais, tu n'as plus le choix, tu peux plus faire machine arrière, vraiment t'es dedans quoi. Et s'il y a, en fait, c'est d'être en étroite relation avec ses actes et ses résultats, tu vois. Et ça, je pense que c'est un des trucs qui a fait aussi que sur la création de contenu, j'ai évolué si rapidement, tu vois. Mmh. En fait, quand tu postes tous les jours, tu as tous les jours un feedback avec ce que tu viens de faire, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Et donc, c'est peut-être cette notion de s'engager. Et c'est ce que j'adore en vrai avec l'entrepreneuriat. C'est que bah, si tu fais de la merde, bah, t'auras rien, tu vois. Et c'est de ta faute et c'est ok et c'est tant mieux.
Ouais, t'as un feedback direct.
Ouais, c'est exactement.
Ok, ouais. Feedback terrain. Un autre point justement, c'est, on en a parlé très très rapidement, c'est ton petit frère. Je vois que, enfin en tout cas la perception qu'on en a dans deux trois de tes stories, c'est que bah, ça marche bien pour lui. Et je trouve ça assez fou parce que finalement il est assez jeune, il est mineur. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Quels sont les conseils que tu as donnés? Aujourd'hui, est-ce qu'il arrive à monétiser justement ce qu'il fait? Parce que mm-hmm. tu vois, le sous-jacent, c'est quoi? C'est qu'on voit vraiment que tout est possible à celui qui se donne les moyens et qui a accès aux bonnes informations, qui a un environnement et un cadre d'influence qui est positif et qui le tire vers le haut. Et que les gens et les jeunes, notamment, commencent de plus en plus tôt, de par le fait que désormais, juste avec une connexion Internet, un téléphone, du bon sens et de la bonne volonté, un peu de passion aussi, et ben tu peux faire de très jolies choses. À ton échelle, certes, mais de très jolies choses. Si tu peux nous partager justement cette vision, c'est assez dingue et ça en motivera, je pense, plus d'un ou plus d'une.
Ouais, c'est vrai que mon petit frère, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe pour lui actuellement. Déjà parce qu'il a 15 ans. Et bah là, tu vois, il y a 2 heures, il était en appel avec le comptable.
Ok.
Parce que bah, il commence à faire pas mal d'argent et pour le moment, il a pas de structure, notamment parce qu'il a 15 ans et que c'est un peu compliqué. Bref. Et mon petit frère, en fait, lui, ce qu'il fait, pour remettre un petit peu de contexte, c'est que lui, il fait notamment de l'achat-revente de vêtements et de sneakers, donc de chaussures, de basket un peu, on va dire. Et c'est très marrant d'ailleurs parce que, en fait, moi je faisais exactement la même chose quand j'avais 16-17 ans où j'achetais sur Vinted des vêtements. Je me souviens, tous les soirs je rentrais, j'allais sur mon PC et je passais 2-3 heures, tu vois, à refresh le fil d'actualité pour trouver un peu les pépites. J'achetais au meilleur prix et ensuite je revendais quoi. Et en vrai, grâce à ça, j'arrivais à me faire 300-500 euros par mois, tu vois, quand j'avais 16-17 ans, c'était déjà pas mal. Et lui, il a repris un petit peu ça, mais il a décidé de voir beaucoup plus grand. Et donc, aujourd'hui, en fait, il a même des fournisseurs où il paye, je sais pas, 1000 euros, il va recevoir 50, 60, 70 doudounes et il va les revendre après à l'unité. Et moi, ça m'impressionne pas mal. Mais c'est sûr qu'il est dans un environnement et y a moi, évidemment, qui l'a un petit peu influencé, mais il y a surtout notre mère aussi qui a cette vision un petit peu entrepreneuriale parce qu'elle est en libéral, elle est psychologue. Et donc, elle nous a toujours poussé à entreprendre, mais pas au sens premier du terme, juste à être entreprenant en fait dans notre vie. Et donc, on voit que pour mon petit frère, ça fonctionne aussi super bien. Et aujourd'hui, il est même dans un local avec un gars qui fait aussi de l'achat-revente, qui a 21 ans, donc à mon âge. Et c'est devenu un peu son pote et son mentor pour le business, quoi. Donc, il est vraiment dans un environnement qui est génial. En plus de ça, il s'est lancé sur les réseaux et ça a fait complètement exploser son business. Où aujourd'hui, il fait... je connais pas exactement ses chiffres, mais je pense que sur les 2-3 derniers mois, il a fait plus de 10 000 balles par mois, quoi.
Waouh.
Donc,
à 15 ans.
Ouais. Ouais, c'est assez impressionnant. Et là, d'ailleurs, il est même en train de bosser sur une sorte de mini-SaaS, on va dire... où il va permettre aux gens, avec un abonnement, d'avoir accès à un bot qui achète directement les meilleurs articles sur Vinted pour toi. Enfin bref.
Okay.
Franchement, il est impressionnant.
Ouais. Et c'est toi qui l'as mis à tout ça ou il l'avait déjà
Bah, on va dire que je lui ai un peu ouvert la voie, mais même si j'avais pas été là, je pense que il aurait quand même fait ça en fait. Je c'est pas moi qui l'ai lancé, qui lui dit, qui l'ai poussé, qui l'ai même obligé, où je lui ai dit il faut que tu commences à gagner de l'argent et tout. Non, c'est quand même venu de lui, mais après c'est sûr que j'ai été là pour l'accompagner, pour le guider surtout au départ. D'ailleurs, on avait même un business ensemble un moment pareil d'achat-revente de pantalons. Et c'était trop bien parce qu'en fait, on travaillait ensemble des après-midi, on faisait les colis, on faisait les photos, on allait à la laverie laver les vêtements, enfin bref. Donc ouais, j'ai pu un petit peu le guider, mais moi, j'aime pas imposer des conseils, imposer des modes de vie, ce genre de choses. Moi, j'aime beaucoup ce principe d'exemplarité, tu vois. C'est, bon, bah, regardez, moi, dans ma vie, voilà, je fais ça. A priori, il semble que ça me réussisse plutôt bien. J'ai l'air d'être heureux, j'ai l'air d'être épanoui, j'ai l'air d'avoir la forme. Bon, bah peut-être que si vous voulez, on peut en discuter, on peut essayer de savoir est-ce que vous avez envie de faire pareil, comment est-ce que je fais, etc. Tu vois. Mais j'ai jamais, enfin au départ, j'ai eu envie d'imposer certaines choses à mes proches, même à mes potes en fait, où j'étais en mode, mais les gars, pourquoi vous continuez à vivre comme ça? Enfin, c'est pas possible. Venez, on arrête de sortir. Venez, on essaye de nouvelles choses. Venez, on va à la muscu tous ensemble et tout. Mais en fait, tu te rends compte que très vite, bah, ça intéresse que toi, quoi, bizarrement. Enfin, en tout cas, dans ton cercle proche, tu vois. Et c'est là où, après, les réseaux, c'est génial parce que ça te permet de rentrer en connexion avec des gens qui partagent ces centres d'intérêt. Alors qu'avant, c'était complètement impossible, tu vois. Et c'est ce qu'a fait aussi mon petit frère, c'est qu'aujourd'hui, il a des potes qui sont un peu plus âgés que lui, mais qui, pareil, font exactement le même business, avec qui ils vont à Lyon, là, par exemple, ce week-end, tu vois, ils prennent un Airbnb, ils sont en train de taffer, là, sur une marque de vêtements. Et voilà, en fait, à partir du moment où tu as cet environnement, moi, c'est pareil, aujourd'hui, je travaille dans un coworking, c'est notamment pour ça, tu vois. C'est pour être dans cet environnement qui est stimulant, où, en fait, tu as l'impression que être entrepreneur, c'est la norme, quoi.
Ouais, c'est assez incroyable quand même ce que tu expliques à l'égard d'un jeune homme de 15 ans, tu vois. Toi, ça va encore, t'en as 21, t'as commencé à 18 et autres, même si c'est relativement jeune, mais c'est fou justement cette notion. Un autre sujet, c'est bon. Donc, pour revenir sur ton petit frère, hein, c'est création de contenu, Vinted, fenêtre d'opportunité. Et puis derrière, bah, il n'y a pas de secret, il bombarde, il travaille. Et puis
Ouais.
y a du résultat. Donc franchement, franchement top. Un autre sujet, c'est, tu parlais de ton entourage que tu as voulu influencer par différentes actions que tu leur suggérais, peut-être de faire ou d'autres d'arrêter. Avec du recul, justement, toi qui as été dans ce mode-là, et je l'ai été aussi, fut un temps, mais un peu moins parce que j'avais finalement très peu d'entourage pour ma part lorsque je me suis lancé, j'ai pris conscience de plein de choses. C'est quoi l'élément le plus limitant que la plupart des gens, excuse-moi du terme, j'en ai pas un autre, normaux, entre guillemets, même si c'est pas péjoratif, font de manière naturelle, mécanique et limite par habitude, alors que vraiment, ça les limite dans leur capacité à aller chercher des résultats, du potentiel, atteindre leur objectif, ou par exemple, ça vient initier le mode j'ai pas le temps, ou le mode je peux pas, je suis pas capable, alors que clairement, ils supprimeraient cette petite action où ils changeraient quelque chose et ça pourrait leur permettre d'aller chercher des jolis résultats.
Ouais, c'est difficile de donner une petite chose, une petite action, parce que en général, c'est à la hauteur de ce que tu vas obtenir, tu vois. Donc, pour moi, le truc le plus important, c'est l'environnement dans lequel tu te trouves au quotidien. Parce que, tu sais, on a vraiment ce principe de mimétisme, cette peur d'être rejeté du groupe. Et donc, quand toi, en fait, je sais pas, tes amis proches, ta famille proche font partie un petit peu de ce système qu'on pourrait qualifier de classique, et en fait, si tu essayes d'en sortir, on va un petit peu t'en empêcher, on va te pointer du doigt, tu vas dire, on va te dire, mais pourquoi tu veux faire ça? T'as changé, t'es devenu quelqu'un de différent. Et en fait, c'est là où on va t'amener le plus de croyances limitantes, c'est là où tu vas être le plus freiné, en fait. Et donc, moi, j'ai remarqué que la plupart des entrepreneurs, ils ont pas mal voyagé. Et c'est des voyages qui les ont un peu bouleversés, en fait, tu vois. Ou en fait, quand un jour, tu vas dans un nouveau pays, tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais rencontrés dans ton entourage ou dans ton quotidien un peu habituel. Et bah, c'est là où il se passe des choses. C'est là où on te montre. Parce qu'en fait, c'est bien YouTube, tu vois, ça permet de montrer à des gens que bah, il existe de nouvelles choses, de nouvelles perspectives et tout. Mais ça manque. Ça se matérialise pas vraiment dans le réel, tu vois.
Ouais.
Quand tu rencontres pour de vrai un gars, un entrepreneur, par exemple, bah, là, ça fait vraiment quelque chose, quoi. Et notamment quand tu vas à l'étranger, c'est là où tu peux avoir ce genre de choses. Donc, je pense que ouais, l'environnement, c'est. Moi, je l'ai vu avec le confinement. En fait, bon, c'était un peu brutal parce que du coup, je voyais quasiment plus personne. Et mon environnement, c'était mes 5 youtubeurs favoris, tu vois,
Ouais.
avec ma mère et mon frère. Mais ça a eu un effet énorme sur moi. Et c'est d'ailleurs comme ça aussi que j'ai réussi à arrêter de fumer, tu vois.
Ok. Ouais, c'est assez dingue. Et justement, un autre sujet qui me vient à l'esprit, là, comme ça aussi, avec l'écho de tes différentes vidéos et certaines que tu as réussi à mettre en avant, et c'est un sujet qui est capital, que beaucoup ont mis en avant. Yomi, par exemple, a beaucoup mis en avant à certains moments, c'est le côté dopamine et addiction aux réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont complètement hypnotisés par les réseaux sociaux, perdent énormément de temps, d'énergie sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Insta, etc. Toi et moi, on a plus cette posture de créateur et non de consommateur. Moi, pour ma part, j'ai même pas TikTok sur mon téléphone. Je suis jamais sur Instagram. J'ai un temps d'écran très faible. Je sais que tu traques aussi ton temps d'écran et t'en parles de temps en temps. Si tu devais synthétiser justement ce que tu partages dans ces vidéos, que je trouve extrêmement pertinentes et d'utilité publique réellement, à l'égard de la dopamine, de l'addiction aux réseaux sociaux et l'inverse des bienfaits, c'est les méfaits finalement, que cela procure chez les gens, qu'est-ce que ce serait?
Bah, en fait, avec l'apparition d'Internet, on a eu un changement de paradigme, notamment dans les addictions. C'est qu'aujourd'hui, c'est possible d'être accro à quelque chose qui n'existe pas. Tu vois? C'est possible d'être accro, enfin, qui n'existe pas, ou, en gros, ce que tu vas trouver derrière ton écran. Avant, pour obtenir de la dopamine, soit il fallait, enfin, c'est encore le cas aujourd'hui, mais il faut boire son verre d'alcool, il faut fumer sa cigarette. Aujourd'hui, juste, t'es là, tu regardes un écran. Et tu peux envoyer de la dopamine à ton cerveau, tu vois. Et ça, en vrai, à l'échelle de l'humanité, c'est tout récent, quoi. Et ça, c'est un des trucs les plus dangereux parce qu'en fait, tu viens complètement décorréler l'effort du résultat. Normalement, dans la nature, et c'est comme ça qu'on fonctionne et qu'on a été programmé pour, si tu veux obtenir une récompense, si tu veux obtenir de la nourriture, par exemple, eh bien, tu vas devoir aller chasser pour manger. Si tu veux obtenir du sexe, bon, bah. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais tu vas devoir faire un effort, tu vas devoir essayer de séduire des meufs et tout pour avoir cette récompense, tu vois. Aujourd'hui, tu peux appuyer sur deux boutons sur ton écran et ça y est, tu as la récompense. Et ça, tu vois, c'est un des trucs les plus dangereux parce que ton cerveau va prendre ça pour acquis et bah en fait, comme on est un petit peu drivé par... Tu sais, dans notre cerveau, on a deux parties qui cohabitent. Qui sont le striatum, donc qui est notamment lié à ce circuit de la récompense. Et on a notre cortex préfrontal pardon, qui est, lui, davantage relié à la réflexion et au contrôle. Et en fait, entre ces deux parties, il y a le faisceau fronto-striatal, donc qui permet un petit peu la liaison et qui permet aussi la régulation, tu vois. Et plus tu vas choisir ce chemin un petit peu donc de récompense rapide sans fournir d'efforts, de dopamine explosive qu'on pourrait qualifier avec les fast-food, avec le porno, avec les réseaux sociaux, et plus tu vas avoir le nombre de récepteurs qui vont augmenter, plus le striatum va être stimulé, et plus ce faisceau fronto-striatal, il va être renforcé, mais dans le sens où en fait c'est ton striatum qui gagne, tu vois. Et plus ton striatum, plus cette partie plaisir rapide, etc., gagne, plus c'est difficile d'être en mesure de se contrôler, de se réguler, et plus c'est dangereux, tu vois. Et c'est ça un des phénomènes qui est vraiment vicieux avec les réseaux aujourd'hui, c'est que bah, c'est trop facile de succomber à la gratification instantanée, tu vois. C'est vraiment trop facile, il n'y a pas assez de résistance, il n'y a pas assez de barrières à l'entrée.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans notre quotidien pour justement se pousser à chercher gratification long terme que gratification court terme et éviter de, comment dirais-je, se soumettre à nos pulsions? Exemple, j'ai faim, je vais manger de la junk food. J'ai pas envie d'aller à la salle, bah, je vais rester dans mon canapé. Tu vois.
C'est dur, il faudrait avoir une vision assez holistique, tu vois, parce que typiquement, tu dis j'ai faim, je vais manger un fast-food. Bon, bah, si tu as mal dormi la veille, tu vas avoir tes hormones de la faim, enfin, de l'appétit plutôt, qui est la ghréline ou la leptine, je sais plus, qui va être davantage stimulée, tu vois. En gros, ton corps, comme tu n'as pas assez dormi, il va davantage t'envoyer des messages et des signaux de j'ai faim, je veux manger, je veux manger, je veux manger. Donc, déjà, ça, c'est un premier élément, comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu vas, tu vois. Si tu es là, tu es enfermé, tu dors pas beaucoup, etc., bon, bah, c'est sûr que tu vas beaucoup plus facilement succomber à ce genre de choses. Et en fait, ça pour moi, c'est un des trucs qui est difficile à atteindre, c'est que à partir du moment où tu es plutôt bien dans ta vie, je sais pas, on va dire que tu bouges, tu passes du temps dehors, t'as des gens avec qui tu te sens bien, t'as des proches, t'as un rythme de vie qui est à peu près normal, bon bah déjà à partir de ça, ça va être beaucoup plus simple, tu vois. Et ça c'est parce qu'en fait on le voit, les gens qui succombent le plus aux gratifications instantanées, c'est les gens qui sont juste les moins bien dans leur vie aussi, tu vois. Alors est-ce que c'est un phénomène de causalité où t'es moins bien, donc où tu consommes de la gratification instantanée, ou est-ce que c'est tu consommes de la gratification instantanée où t'es moins bien? Évidemment, ça va dans les deux sens, tu vois. Mais c'est sûr qu'il y a une étroite relation entre les deux. Moi, typiquement, quand je me sens bien, quand je passe une bonne journée, bah, je ressens beaucoup moins l'envie et le besoin de me gratifier instantanément, tu vois. Parce qu'en fait, je tire simplement du plaisir dans ma vie et dans ce que je fais au quotidien, tu vois.
Ouais.
Donc il y a aussi vraiment cette importance capitale, mais qui est pas donnée à tout le monde évidemment, hein, de faire un truc qu'on kiffe tous les jours, quoi.
Tu sais, pour beaucoup, et encore ce midi j'avais cette remarque, moi je suis quelqu'un de très organisé, très carré, très analytique, à aussi analyser tout ce que je fais, tout ce que je mange, tout ce que j'ingère, tout ce que je bois, comment je dors, mon sport, machin. Aussi connecté biohacking, complémentation, analyse de mes prises de sang tous les 3 mois, analyse de mon cycle HRV, de mon énergie, stress monitor, enfin toutes ces choses. Et pour beaucoup, tu vois, la perception qu'ils en ont, c'est ouais, c'est trop discipliné, tu dois pas être heureux dans ta vie, c'est pas possible, pourquoi tu fais tout ça, etc. Mais en fait, c'est l'inverse, justement. C'est, enfin, pour ma part, j'imagine que c'est la même chose pour toi, c'est justement ça qui me stimule et qui me motive au quotidien, plutôt que de ne pas maîtriser mon environnement, de ne pas maîtriser ma capacité à être performant, de ne pas m'entretenir et me respecter comme il se doit. Et je serais extrêmement malheureux, déçu, tu vois, de juste manger des fast-foods, dormir à n'importe quelle heure, boire de l'alcool, ne pas faire de sport, me sentir mal dans mon corps, voir mon énergie se dégrader au fur et à mesure. Et ouais, je pense que c'est important aussi de véhiculer ce message que tu véhicules de manière indirecte aussi au travers de tes comportements du quotidien, parce que si tu n'étais pas finalement épanoui et heureux dans ces agissements-là, bah, tu ne le ferais pas, quoi. À un moment donné, tu pourrais le faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais tu ne le ferais pas 3 mois, 6 mois, 1 an.
Et ça me paraît important. Et puis, il y a aussi un phénomène d'habituation, tu vois. Ouais. C'est le cas, par exemple, avec le gluten, où, en fait, de base, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont intolérants au gluten, tu vois. Et en fait, comme on en mange depuis qu'on est petit, on ne ressent plus ce que fait le gluten à notre corps et à notre système digestif. En gros, le corps, il a arrêté d'envoyer des messages où on s'est juste habitué et on part du principe que c'est normal d'être ballonné après manger et tout. Mais ce qui n'est pas spécialement le cas, tu vois. Et quand dans ta vie, tu as connu des phases de bien-être intense où tu manges bien, tu fais du sport, tu dors bien, etc., et que tu te retrouves dans la situation inverse, dans la situation qui est le quotidien de beaucoup de gens, eh ben en fait, tu te rends compte que tu as beaucoup moins d'énergie, tu te sens moins bien, etc., tu vois. Mais c'est ça le problème pour beaucoup de gens, c'est qu'en fait, ils sont à 70%, ils ont l'impression que c'est leur mode par défaut et que c'est normal, tu vois. Et ça, c'est... Et en fait, moi, c'est un des trucs que je combats le plus, c'est la résignation. Vraiment, je veux pas que les gens se résignent et se disent, bon, bah, en fait, c'est comme ça, c'est normal, on peut pas faire mieux, tu vois. Genre, ça, c'est un de mes plus grands combats, vraiment.
Merci pour tous ces éléments. C'était vraiment extrêmement intéressant de partager ce moment avec toi. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent ont eu au moins autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'animer. Si c'est le cas, encore une fois, faites-le nous savoir avec les 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme de streaming préférée et le petit avis sur la publication aussi LinkedIn qu'on va faire à cet effet. On mettra tes liens aussi, Dali, notamment pour aller te suivre toute l'année 2024 dans cette épopée,
cette
folle aventure SDF tout millionnaire avec ton acolyte Jean. J'ai une dernière question pour toi que je pose à chaque invité du podcast. Parmi tout ce que tu nous as partagé, est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé ici ou que tu n'as jamais encore partagé du tout dans aucune interview que tu pourrais nous partager, s'il te plaît, qui a créé littéralement un vrai déclic chez toi, presque une transformation, voire une transformation identitaire. Ça peut être une simple phrase, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose de positif, quelque chose de négatif. Bref, la parole est à toi, tu as carte blanche pour le mot de la fin.
C'est pas facile cette dernière mission. En plus, je la connais cette question. Il y a peut-être une phrase ces derniers temps qui résonne beaucoup avec moi et qui m'a donné notamment envie, par exemple, de faire ce défi SDF tout millionnaire. C'est ce qui t'a amené là ne t'emmènera pas là-bas. Ça, c'est un des trucs que j'aime bien me répéter en ce moment. Et qui m'oblige à voir les choses différemment et à ouvrir de nouvelles perspectives.
Merci Dali.
Merci Alec.